Fais-moi une place au fond de ta bulle. Et si je t'agace, si je suis trop nul, je deviendrai tout pâle, tout muet.
Bonjour le cher Radio Tsuhair, bien le bonjour. Aujourd'hui, je vous propose une émission radio sportive. Faire du sport, c'est vital pour ouvrir tous les sens et même les sens interdits. C'est aussi excellent pour son équilibre mental et le sport repousse le vieillissement. Si, si, vraiment, regardez-moi. Mais Müller, tu n'es plus à la télévision, tu es derrière un micro maintenant et quel bonheur d'être parmi vous. Si je vous parle de sport, j'ai fait une place énorme incommensurable à un célèbre couple, les Herbert, Marie-Laure et son Jean Roch, tous les deux enseignants de tennis depuis plus de 40 ans, c'est pas rien, sont les meilleurs joueurs alsaciens et leur fils prodige Pierre-Hugues Herbert, P2H que tout le monde connaît, est un professionnel et joue au tennis d'Australie à Paris, il a un magnifique palmarès au Grand Chelem. Et voilà le programme ce matin de notre demi-heure sportive et vive le sport. Bah, je suis bien heureux de vous rencontrer tous les deux, ça me fait plaisir de vous avoir dans ce studio flamboyant. Comment ça gazouille sur votre planète sportive ?
Bah, bonjour André, très, très content aussi, bah, aussi. De te retrouver.
Voilà. Et avec ton épouse.
Au micro de JDIKA.
Ouais, bah écoute, ça me fait plaisir également. Alors, comment ça gazouille dans votre monde tennistique ? Vous êtes tombé dans cette marmite de la potion magique tennistique comme Obélix ?
Oh, c'est un peu ça. Hein. On était dans le sud, en fait. On vivait dans le sud. Moi, j'étais assez...
Vous avez grandi là-bas, dans le sud ?
Non, Jean-Roch est normand. Et... Ah. Moi, je vivais à Draguignan, dans le Var.
C'est un beau mélange, ça.
C'est un beau mélange. Et puis, Jean-Roch est devenu mon professeur de tennis.
Ah, c'est lui qui t'a tout appris.
C'est lui qui m'a tout appris.
Voilà, ah, ouais. C'est ça. Et alors, Marie-Laure, tu as découvert le tennis dès ton tout jeune âge, toute petite ?
Bah, vers la quinzaine, en fait. Je faisais du volleyball et puis...
Toujours du sport, quoi.
Toujours du sport. Puis, mes parents étaient très fans de tennis. Aussi, c'était la belle époque du tennis.
Ah, ouais.
Où tout le monde devait faire des stages de tennis, jouer au tennis.
Avec des raquettes en bois, encore ?
Avec des raquettes en bois.
Et des balles en carton.
Des balles blanches.
Ah oui, je me souviens.
Dans les cartons, c'est ça.
Ouais, c'était surtout moi, ça, hein, parce que moi, j'ai commencé.
Mais moi
plutôt,
aussi.
Hein.
Ouais. Et toi, t'as commencé quand, Jean-Roch ?
Ouais.
Moi, j'ai commencé, ça devait être au moment de la grande révolution là, de 68, presque, j'ai dû commencer.
Ouais,
effectivement, les raquettes en bois, les raquettes, les cordages en boyaux, les boîtes en carton, on mettait les balles.
Ouais. Oui, les quatre balles, ouais, là, je me souviens, j'avais ça, j'étais acheté ça aussi.
On était des ancêtres, là, c'est vrai
que
ça a tellement évolué après le tennis.
Mais pourtant, Jean-Roch, le tennis n'est pas très vieux, je crois que ça a 140 ans, si je ne me trompe pas, c'est pas un sport...
C'est à la fois très vieux, c'est complètement français... Puisque
ça vient
du jeu de paume, en fait. Jeu de paume, les Anglais appelaient ça le tennis, parce que dans le jeu de paume, quand tu engageais la balle, tu étais tenu, d'après les règles, de dire « tenez ». Voilà,
tenez. Ah ouais.
Et donc les Anglais ont appelé ça tennis, parce qu'ils avaient été marqués par le fait qu'il fallait dire tenets. Alors d'ailleurs, ça s'écrivait, ça se disait, ça se prononçait un peu différemment. Et ce tennis, c'était le jeu de paume en Angleterre.
Ah,
et donc
quand
ils ont créé le tennis... à l'extérieur, parce que c'était un truc en salle, qui ressemblait un peu au squash, on va dire, de loin. Quand ils ont créé cette adaptation du tennis à l'extérieur, ils ont appelé ça lawn tennis, parce qu'ils l'ont fait sur des playgrounds, et avec un kit, il y avait un filet, tout ça, c'est le fameux Major Wingfield qui a inventé ça.
Ouais. Et là, on est dans les années 1894,
je pense. 1875, après 1870, après le temps que ça se développe un peu et que ça devienne, que ça se régule. Et
c'était...
que les premières compétitions ont lieu, je crois que c'est à Wimbledon qu'ils ont fait les premières.
C'était l'élégance à l'époque, tout le monde était bien habillé.
C'était un sport qui se pratiquait beaucoup en double, en famille, les plus jeunes jouaient avec les plus anciens, c'était un divertissement
plus tard au double. Alors vous êtes prof de tennis depuis longtemps et vous avez partagé votre passion à d'innombrables jeunes, vous avez formé plein de jeunes, de jeunes enfants.
Oui, quand tu es prof en club, c'est sûr que tu vois passer pas mal de jeunes entre tes mains. Bon, moi j'ai commencé les premières leçons avant d'être prof, je devais avoir 16 ans, j'ai fait les premiers cours collectifs, je crois que c'était en 72 en Normandie à Rouen. Et puis après, j'ai jamais arrêté d'enseigner. Et puis quand j'ai passé mon diplôme, j'ai vraiment commencé officiellement à être prof en club en 78. Bon, ça remonte un peu.
Et alors, j'avais une petite question à vous poser, parce que j'ai mon petit fils qui a 7 ans, qui joue au tennis là derrière, à la Roberto. Et en fait, il me faisait une remarque intéressante l'autre jour, et c'est pour ça que je vous pose cette question. Les enfants jouent sur un terrain, sur un petit terrain, avec des balles en mousse, et c'est pas la vraie vie, ça. C'est pas un terrain comme les adultes. Cette musique du tennis, elle manque pas, le son hypnotique, là, le bouc. Poc, tu vois, avec la mousse, on n'a pas ça. Qu'est-ce que vous en pensez?
Là, André, tu appuies sur un point très, très sensible.
Pourquoi?
Là, parce que là, je vais monter au créneau. Hein.
Vas-y, attaque,
je vais attaquer, ouais. Ouais, non, ça, c'est un truc qui me révolte. C'est presque un crime. C'est-à-dire qu'on a...
C'est ma question qui te révolte?
Ah, non, c'est pas la question. C'est le fait qu'on ait confondu des instruments pédagogiques avec la réalité du tennis. Et cette musicalité du tennis... C'est fondamental, il faut éduquer les plus jeunes à jouer avec des vraies balles,
je suis d'accord
tout de suite
ça,
sur des vrais terrains, de toute façon les petits veulent faire comme les grands, mais il faut encadrer ça, et c'est vrai qu'on avait des outils pédagogiques, c'est pas nouveau d'utiliser des balles molles, des balles mousses, tout ça, ce qui leur permettent d'accéder, mais le plus rapidement possible, même s'ils sont comme trois pommes.
Tu penses que les enfants auraient la force de jouer avec une vraie balle de tennis?
Bien sûr, ils s'adaptent toujours, quoi. Donc pour moi c'est une véritable aberration, et c'est sûr que la clé du tennis, c'est cette fameuse balle en caoutchouc, si on remonte au jeu de paume, si les maîtres paumiers qui fabriquaient des estoffes à l'époque en compactant du tissu pour que ça rebondisse, etc. Vous voyez ça aujourd'hui, qu'on a le caoutchouc et qu'on fait jouer les gamins avec des couettes, ils ne comprendraient pas. Ils se retournent dans leur tombe, je crois.
Et ouais. Et alors là, aujourd'hui, on va parler de tennis et tout à l'heure de votre fils également, mais là, je sais que tu es venu avec une guitare et avec ton épouse. Vous avez tous les deux, vous êtes musicien. Tu joues, Jean-Roch, tu joues de la guitare. Alors, vous pouvez nous faire un petit extrait de musique, de quelque chose, pour se faire reposer un peu les oreilles.
Là, tout de suite, à brûle pour point.
Allez, on y va tout de suite dedans avec avec ta guitare. Prends voir ta guitare, là, ta guitare sèche. Et alors, comment t'es venu cette autre passion de musique? C'est un peu comme Noah, tous les tennismen font de la musique et chantent.
Bah, on peut faire un truc comme...
Il répond pas.
Love, love. Un petit truc comme ça.
C'est magnifique, t'as une belle voix, mais toi
ça,
aussi, Marie-Laure. Tu aimes chanter, Marie-Laure?
Ah, moi, j'adore chanter, j'adore la musique, et c'est vrai qu'on a transmis ça aussi à Pierre-Hugues, hein, parce que Pierre-Hugues joue aussi.
J'ai aussi d'instruments
de
musique.
Ouais, ouais,
mais c'est ton mari aussi, Jean, qui t'a transmis cette passion de la musique qui t'a...
D'écouter de la musique, oui, parce qu'il a, vraiment énormément de 33 tours à la maison.
Ah ouais,
collection.
Bah ouais, comme tout le monde.
Donc, on a écouté de la musique beaucoup ensemble. Mais la musique, j'ai toujours eu ça dans ma vie. Hein. On a toujours chanté.
Et alors, vous avez un groupe de musique? Comment il s'appelle, ce groupe de musique?
Alors là, je laisse Jean-Roch donner le titre.
Ouais, ouais. Bah, en fait,
on s'est créé un groupe de musique par rapport en fait, à l'événement qu'on va réaliser la semaine prochaine aux Internationaux de Strasbourg.
Bah oui, qui ont lieu la semaine prochaine.
Voilà,
en fait,
la semaine prochaine.
Donc on est en pleine actualité, là.
On est en pleine actualité. C'est un groupe de potes. Joueurs de tennis.
À tous,
tous. Le but, c'est ça, c'est qu'ils soient joueurs de tennis et qu'ils jouent tous d'un instrument. Donc, on a créé à partir de
des raquettes de tennis et des balles de tennis.
Voilà, c'est ça. Donc, chacun, en fait, va jouer, puis on s'est regroupé et puis on a réussi à faire quelque chose par rapport à un événement donc, qui sera...
Tennistique toujours.
Bah oui, dans le cadre des Internationaux de Strasbourg, l'Afterworks.
Ça s'appelle Tennis Backstage, le nom de notre groupe.
Ah, c'est
complètement créé pour l'occasion.
Créé pour l'occasion. Ouais.
Et donc, c'est un groupe qui va grandir. Vous allez faire des concerts. Wow. Pourquoi vous irez pas Roland Garros ou à Wimbledon?
Pour l'instant, c'est pas à l'ordre du jour, mais on va déjà essayer d'assurer de pas être trop ridicule, on va dire, le 22. Oui, parce que bon, on n'est pas attendu les uns et les autres là, qui vont se présenter sur scène dans cette posture. De jouer de la musique, donc les gens, ça va les faire peut-être rigoler au départ. Oui. On va essayer qu'ils rigolent un peu moins.
Faut jamais rigoler, c'est du sérieux, ça. Faut prendre ça sérieusement, c'est bien. Et alors, ce sont tous tes amis qui sont avec toi, des anciens joueurs de tennis?
Disons que là, on est devenus potes pour l'occasion, parce qu'il fallait justement trouver en Alsace les quelques-uns qui étaient, comme je le résume, qui étaient à la fois des mordus de tennis et aussi des fondus de musique, quoi. et qui pouvaient toucher un peu leur canette sur, avec un instrument. Donc bon, on n'avait pas tant le choix que ça, il n'y avait pas tant de monde que ça à solliciter. Et puis des gens qui sont prêts à faire l'effort, à faire des répètes pour préparer le truc, bah, ça ne court pas les rues non plus. Quoi. Ouais. Mais on est quand même 10, ouais.
Ouais, c'est bien,
10 à se présenter sur scène.
Ouais, c'est une bande de copains, c'est sympa. C'est ça. Ouais.
Je ne vais pas dévoiler le nom des différentes personnes. Mais
non, c'est pas la peine.
En gros, c'est une
peine.
Commande quand même un peu de l'organisation des IS.
Ouais, c'est bien, ouais. Ça quel âge les IS? Ça fait plus de 30 ans maintenant? 30 ans, je crois.
Je crois que ça a démarré quand on est arrivé. C'est déjà ça. Depuis une ou deux.
C'était à Haute-Pierre à l'époque,
ouais, je me souviens bien. Ouais, créé par Bernard Herrmann.
François Cadet à l'époque.
François Cadet qui a pris le relais derrière. En tant que directeur. Puis ça a été racheté par Denis Naegelen et sa société. Et aujourd'hui, même Pierruc fait partie du tour de table des actionnaires.
Ouais, c'est bien. Alors j'avais une petite question pour toi. Marie-Laure, quand je regarde le tennis et quand j'entends cette musicalité du tennis par les femmes qui jouent au tennis, je trouve qu'elles jouent de plus en plus fort et les femmes sont presque égales aux hommes, on peut dire ça de cette manière-là, elles jouent d'une manière aussi pas brutale mais rapide et,
après elles ont aussi travaillé maintenant dans le même sens que les hommes, hein. De toute façon elles se font de la musculation, elles s'entretiennent physiquement, donc elles frappent de plus en plus fort. La coordination motrice d'une femme est égale à celle d'un homme.
Bien entendu. Mais c'est peut-être aussi parce qu'elles ont des entraîneurs hommes qui leur donnent qui leur donnent un autre enseignement, tu penses?
C'est vrai que
peut-être pas d'accord avec ça, hein, parce que tu enseignes aussi.
Sujet sensible.
Mais j'adore quand c'est sensible.
C'est ça. Peut-être qu'il n'y a peut-être pas assez de femmes, justement, entraîneurs dans le milieu féminin, hein, se dit-on. Hein. Et. Je sais pas quoi répondre
même
à cette question.
Même dans le milieu masculin.
C'est ça. Et même dans le milieu masculin, c'est ça. C'est un doux. Non, mais regarde, le marathon est couru par les femmes.
Oui,
c'est
je sais bien.
C'est la même distance homme-femme. Et c'est vrai que dans le tennis, on a toujours eu l'impression qu'on faisait une différence entre les hommes et les femmes. Elles peuvent jouer qu'en 2-7.
Mais la petite différence que je remarque de temps en temps dans le tennis féminin, c'est que les femmes, elles sont moins spectaculaires. Elles font moins un peu la fête, tu vois. Comme par exemple, quand je vois un Connors à l'époque ou un Noah qui dansait la samba ou la Africa. Je veux dire, les filles sont beaucoup plus sérieuses, plus régulières, plus travailleuses, à mon avis. Je sais pas si vous êtes d'accord avec
ça. Oui, c'est ça. Il y a une empreinte qui s'est créée. C'est vrai qu'on n'a plus des Steffi Graf qui avait aussi une empreinte tennistique, des Célestes.
C'était la fille qui criait là sur les cours de tennis.
Qui jouait demain des deux côtés. Des Steffi Graf, une Navratilova qui montait au filet. Et moi, je pense que chez les hommes, c'est un peu pareil aussi. Ça joue tellement vite que ils ont peut-être plus le temps de faire des schémas tactiques complètement différents. C'est bien dommage.
Ouais, mais ils peuvent taper 30 fois la même balle.
C'est vrai,
d'un côté comme de l'autre, en essuie-glace. C'est incroyable
clair,
ce qu'ils
clair.
Font.
C'est vraiment assez mécanique. C'est devenu assez mécanique. Et c'est vrai que ça on aurait du plaisir, justement, à voir des femmes.
Il faudrait qu'on retourne avec les raquettes en bois.
Ça ferait ralentir un peu le jeu, tu penses?
Ouais, peut-être que ça deviendrait plus créatif.
C'est clair, plus créatif.
Mais après, ce serait plus télévisuel, sans doute. Hein, parce que si les gens vont s'ennuyer, regardez, pang, pang. Tu vois, c'est comme le Tour de France, s'ils ne montent pas 37 l'Alpe US, ça n'intéresse plus aucune télévision. Hein,
ouais, c'est peut-être ça. Non, mais c'est vrai que ça gagnerait à être un peu plus spectaculaire, d'autant que les femmes sont souples, qu'on pourrait voir aussi des comportements un peu comme dans la danse, tu vois, féminin. C'est vrai.
Ouais, puis c'est vrai que c'est une belle fête, c'est les IS à Strasbourg. Il y a un beau tableau là. Espérons qu'il ne va pas pleuvoir toute la semaine comme cette semaine là, hein, sinon ce serait quand même une fête gâchée.
Non, il pleut juste avant pour arroser les cours et puis très bien.
Ah, c'est pas mal ça, c'est une bonne idée ça.
C'est bien, c'est très bien.
Alors Jean-Roch, je me posais la question, et avec ta petite guitare, tu pourrais pas nous fredonner quelque chose d'autre, nous jouer un tout petit air je sais pas ce que tu veux, c'est vrai qu'on est tôt le matin, peut-être t'as pas très envie, mais je trouve que tu joues juste et puis c'était joli cette petite phrasounette que tu nous as chantée tout à l'heure.
Je sais pas, on peut faire des trucs.
Mais t'as peut-être une chanson, même si ça dure 1 minute 30, vas-y, on peut y aller, on a le temps.
Mais tu veux que je chante moi ou que je chante avec Marie-Laure?
Tu chantes comme tu voulais, elle peut t'accompagner ou chante toi. Allez, vas-y.
Je sais pas si la guitare.
Tu me chantes pas les Queen, hein. Nous sommes des champions, hein. Sinon, il va me manger.
On n'a pas travaillé.
On va faire un petit tour en Californie.
Wow, génial.
Aux États-Unis,
Ah ouais, génial.
All the leaves are brown.
All the leaves are brown.
And the sky is gray.
And the sky is gray.
I've been for a walk. On a Wednesday.
On a Wednesday.
I've been seven walks. If I wasn't. Along the way, well, I've got all my needs.
C'est du direct sur Radio Judaïka. Merci beaucoup, c'est magnifique, c'est pas un CD, c'est du live. C'est extraordinaire, Jean-Roch. De la balle de la tennis, tu es venu ici d'une raquette en corde, tu es venu sur une guitare sèche, c'est génial, c'est super beau, ouais. C'est
merci,
très très beau.
André,
non, c'est vraiment chouette, ça fait plaisir et c'est touchant.
La musicalité de la balle.
Tu vois, jusqu'où ça va aller, tu vois, jusqu'à la guitare. Alors, il y avait quand même une autre question maintenant que j'ai envie de poser parce que je sais ce que vous allez me répondre. Alors, dans la famille Herbert, dans la famille Herbert, qui est le plus connu dans la famille Herbert? Je demande le fils. Comment s'appelle-t-il, votre fils?
Pierre-Hugues.
Pierre-Hugues Herbert.
Ouais.
Alors,
ouais.
C'est PH.
P2H.
P2H, ouais.
Ouais.
Alors, comment ce garçon est devenu ce célèbre tennisman qu'on connaît aujourd'hui, qui fait des grands chelems, hein, qui joue en Australie, à Paris, à Wimbledon et partout, et surtout en double, hein. Comment c'est venu cette passion du tennis?
Disons que depuis le plus jeune âge, oui, il a été fasciné par la balle.
Je peux raconter juste une anecdote. Je me souviens quand je vous voyais au Lawn, arriver tous les deux avec vos sacs de tennis avec le couffin. Mm-hmm. Il était juste à côté du cours de tennis et il dormait, votre fiston.
Ouais.
Et il écoutait cette musicalité. Donc j'ai ce souvenir, je me souviens de ces instants-là.
Ouais, dès qu'il a pu marcher, il a joué au tennis. Au début, c'est beaucoup Marie-Laure qui l'a débuté. D'ailleurs, avec des balles molles, des trucs comme ça, quand il était vraiment tout petit.
Déjà dans le ventre, il entend.
Moi, j'ai joué jusqu'à 5 mois, en fait, en tournoi.
T'as joué, hein, ouais, d'accord.
Ouais, souvent. Je me suis pas arrêtée.
C'est génial.
Après, il y avait Marjolaine, hein, qui jouait sa grande sœur, qui était très, très forte.
Championne d'Alsace.
Ouais. Championne d'Alsace.
Mais qu'on connaît un peu moins que son frère, ouais,
maintenant,
bien sûr.
Maintenant, oui, mais à l'époque, elle était quand même connue.
Elle était connue, effectivement, ouais.
Puis donc, en la trimballant dans les tournois, on a amené le petit frère avec.
Eh ouais,
L'autre petit frère, il joue beaucoup au tennis encore, mais il était moins mordu. Quoi.
Il est moins mordu, ouais. Et alors, ton fils, alors, il fait des grands tournois. Vous l'accompagnez de temps en temps en Australie ou ailleurs?
Alors là, tu fais un grand bond dans le temps. Non, mais c'est vrai,
que
nous, on a essayé de suivre le mouvement, quoi. Hein, de l'accompagner le mieux qu'on pouvait. Et comme il s'est révélé être un des meilleurs gamins français quand il avait 8, 9, 10,
tu
11, 12,
compte,
13
toi,
ans,
toi
on
qui
a
étais prof.
Créé un projet.
Oui, oui. Vous vous êtes rendu compte qu'il avait des facilités, oui, oui. Qu'il était différent des autres avec la raquette de tennis?
Il faut y croire un peu. De toute façon, quand les gamins ils sont jeunes, ils ont tout l'avenir devant eux. Donc après, c'est une question de travail, c'est une question de chance aussi. Et disons que nous, à un moment donné, on a créé ce fameux projet P2H quand il avait 13-14 ans. Et il a fallu effectivement
trouver des mécènes,
il a fallu tout structurer autour pour bien l'accompagner. Après, moi j'ai toujours une certaine réticence à dire qu'on forme un gamin ou qu'on le sort ou qu'on bien sûr on lui transmet toute l'expérience qu'on peut essayer de lui transmettre, mais l'expérience se transmet difficilement. C'est plutôt lui proposer des situations où il peut progresser. Donc cet accompagnement, c'est tout l'environnement qu'on crée autour de lui, trouver des sous, lui faire à manger, lui corder ses raquettes, l'accompagner, conduire. Enfin, c'est tous ces aspects-là d'accompagnement 24 heures sur 24 qui sont importants. Après, le gamin, là-dedans, il se construit lui-même. Il ne faut quand même pas, faut pas se leurrer.
Est-ce que ton enseignement, moi je te connais un peu, est-ce que ton enseignement n'était pas un peu plus philosophique que tennistique?
Ouais, il est tous azimuts, mon enseignement. Je pense que il intègre aussi une partie philosophique, effectivement, mentale au sens noble du terme, c'est-à-dire intégrer toutes les composantes de l'être humain, les sentiments, c'est... on essaye de gérer l'ensemble, C'est pas les émotions, les énergies, tout ça, il faut gérer, quoi.
Est-ce qu'on est fier maintenant de son parcours?
Oui, bien sûr.
tu enseignes toujours un peu, vous?
Non. Moi je suis toujours en gros, on va dire, dans le staff de Pierrugue, si j'ai pris beaucoup de recul, aujourd'hui.
Parce qu'il a aussi d'autres coachs, je crois qu'il y a Santoro qui le coach un peu, je crois que c'est ça.
À un moment, il a fait appel à d'autres on va dire consultants ou coachs, etc.
Je me souviens aussi d'un tournoi, parce que je suis aussi fan de tennis et je regardais ça à la télévision. Et je me souviens quand Joko disait, quand il avait joué contre lui, il disait à un moment à la télévision, ce jeune homme, on va entendre parler, parce qu'il avait une manière de jouer et qui lui plaisait beaucoup. Et il disait déjà, il faisait déjà l'éloge de ton fils. Et je me souviens également de quand il servait, il avait un service un peu différent. Il n'était pas aussi, il coulait pas autant que les autres, il était un peu achouré, mais ça,
c'est son identité,
C'est son identité.
Chaque joueur a un peu une identité.
C'est sûr que le rôle de l'environnement, c'est de laisser le joueur s'épanouir et de laisser finalement trouver qui il est et révéler son identité propre. Et c'est vrai que dans son service, il y avait quelque chose de personnel qu'il avait choisi de faire, des choses auxquelles moi j'ai pas touché. Donc
c'est vrai que les commentateurs le relevaient de temps en temps et ça me faisait sourire quand j'entendais ces commentaires là. Et alors Pierre-Hugues est aussi un joueur de double, maintenant il a beaucoup joué avec Nicolas Mahut. Ils ont gagné beaucoup de tournois en double.
Il devrait se retrouver à Roland Garros là cette année,
j'espère qu'on le verra.
Disons que c'était un joueur total, il faisait simple et double, sauf qu'à un moment donné, ses résultats en double ont pris le pas sur ses résultats en simple et même l'ont un petit peu empêché de développer sa carrière en simple. Là, il essaie de revenir sur le circuit en privilégiant le simple, il a déjà essayé de le faire certaines années, mais c'est vrai que ça lui convient pas vraiment d'être considéré comme un joueur de double, parce que son rêve, c'est aussi de briller en simple. Il brille en double, c'est déjà très bien.
C'est extraordinaire. Regarde, il a
gagné
tellement de beaux résultats.
Il a gagné deux fois le Masters, il a gagné la Coupe Davis.
C'est quand même extraordinaire.
On va pas cracher dans la soupe.
Non, mais bien entendu, c'est génial. Après, c'est un beau couple aussi avec Nicolas Mahut. Ils s'entendent certainement très très bien. Ce sont des bons amis aussi.
C'est sûr qu'il
crée,
ça crée des liens. Après, c'est pas toujours un long fleuve tranquille. Une équipe de double,
Il faut bien s'entendre.
Trop,
ça suffit pas.
C'est faut pas trop être bisounours sur le.
Oui, c'est sûr.
Ça se passe.
Ouais. Je crois qu'ils le sont pas. Ouais. Ils ont envie de gagner. Un athlète comme ces deux joueurs, ils ont envie d'avoir des résultats. Ils veulent un joueur de tennis veut gagner un match. Il veut pas laisser passer des balles.
Ce qui est sûr, c'est que Nicolas Mahut,
à ce niveau-là,
Nicolas Mahut est un grand passionné de tennis là, et c'est bien plus que ça encore, et donc un très grand professionnel aussi dans son engagement.
Comme votre
fils. Et ça, c'est sûr que quand on travaille avec lui, c'est des atouts très forts. Quoi.
Et vous avez, il vous parle de temps en temps de l'ambiance de la Coupe Davis avec les collègues tennisman, des gens connus.
Ils regrettent tous l'ancienne formule de la Coupe Davis.
C'était extraordinaire.
Choses qu'ils ont vécues et qui.
Ouais, ouais. Moi, j'ai eu la chance, c'est vrai, d'aller à Gerland quand les Français ont gagné contre les Américains, là, quand Noah dansait Saga Africa. J'y étais à l'époque avec France 2. On avait fait des reportages. C'est vrai que c'est des souvenirs inoubliables. La Coupe Davis, il y avait une fête incroyable. Et je sais qu'à la fin, quand ils ont mis du champagne dans les vestiaires, dans la Coupe, j'avais frappé à la porte et Noah m'a laissé rentrer. J'ai pu faire des images. Ouais. À ce moment-là, c'est des moments extraordinaires. Et je crois qu'il n'y a pas mieux, quoi.
Il faut savoir qu'un joueur de tennis, c'est un sport individuel. Donc, il passe son temps à se préparer individuellement. Il est seul, en fait, tout au long de sa carrière. Et là, ces moments-là, la Coupe Davis, ça devient un sport par équipe. Donc, ils en ont besoin. Ils en ont besoin.
D'être ensemble.
Ouais. Ils ont peut-être appris ça dans les clubs. Ils ont été formés dans les clubs. Ils ont fait un peu les matchs par équipe. Et puis après, ils le perdent. Ils n'ont plus jamais, quoi. Donc là, ça les transcende.
Tu parles un petit peu de préparation, Marie-Laure. C'est quoi la préparation en dehors des cours de tennis? Ils font des footings, ils vont nager, ils vont courir, ils vont faire de la muscu. Alors, c'est quoi un programme, par exemple, pour votre fils? Qu'est-ce qu'il fait?
De toute façon, c'est tous les jours. C'est pas seulement que je joue au tennis.
Tous les jours, il fait des gammes. Tous les jours.
Non, on parle sur. Maintenant, la préparation physique, elle a une importance primordiale, que ce soit chez les garçons ou chez les filles. Hein, d'ailleurs, c'est pareil. Hein.
C'est pareil. Ouais.
Donc, ils se préparent physiquement, ils ont des entraînements, ils ont des protocoles, chacun le sien, en fait. Ils sont beaucoup dans les salles de sport.
Alors, qu'il est coaché? Il a quelqu'un?
Oui, bien sûr. Il y a souvent des entraîneurs physiques. Il y a aussi un kiné, donc qui répare un peu les bobos.
Les bobos, ouais. Et en ce moment, il en a un peu des bobos, je crois.
Il en a, le pauvre. Oui, il n'est pas.
Il sera prêt pour Roland Garros, tu penses?
Écoute, je pense que là, il peut peut-être repartir sur le terrain, mais à savoir si ça va tenir. Il faut être patient quand on a des blessures. Ouais. Hein.
Ouais. Et puis, l'autre belle actualité, il va y avoir un petit bébé, petit enfant.
C'est ça aussi.
C'est chouette d'être père, non?
Oui, c'est chouette.
Un héritier.
Vous avez un héritier. C'est votre premier petit enfant?
Non, le quatrième.
Waouh. Donc, vous êtes grands-parents. Et ces petits-enfants, ils vont jouer au tennis aussi, tu penses, un jour?
J'espère.
Le plus grand des deux, là, le fils aîné de Pierrugue, Harper, il est déjà bien.
Il est dans la marmite. Hein,
il est aussi. Déjà dans la potion magique.
C'est ça, il est
déjà bien
magique.
Atteint. Là.
Alors, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année 2023 après les IS? Faire beaucoup de concerts, continuer d'enseigner?
Pour faire des concerts, il faut avoir la santé. Donc,
vous l'avez quand même.
On va souhaiter la santé à Pierrugue qui retrouve l'équilibre. Parce que les résultats à court terme, c'est bien beau, mais en fait, l'important, c'est de pouvoir.
Continuer,
raccrocher ses wagons au circuit durablement. Et puis nous, effectivement, si on est en forme, on pourra peut-être faire d'autres concerts.
En tout cas, la voix est là, la voix est là, l'envie de jouer est là. Je trouve que vous avez.
Il y a du boulot.
Vous complétez bien tous les deux.
Il y a du boulot. Ouais. Et puis on garde le tennis comme sport bien-être aussi.
Continuer
de jouer. Parce que c'est le sport de toute une vie, le tennis. Donc.
Je vous remercie en tout cas d'être venu à nos micros. Là, ça m'a fait vraiment plaisir de vous revoir. Et je vois que vous avez toujours la patate et tout. En tout cas, vous souhaite une bonne semaine aux IS et une belle fin d'année. Puis que Pierre-Hugues gagne Roland Garros, tu gagnes tout. Il faut qu'il gagne. Ok. Ouais. Voilà. Merci beaucoup.
Merci André.
À bientôt à tous.
Merci.
Salut.
Au revoir.
Voilà. On a tant ressassé les mêmes théories. On a tellement tiré chacun de notre côté. Que voilà, c'est fini. Trouve un autre rocher, petite huître perlée. Ne laisse pas trop.